Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Betza, page 14, Daf Yud Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Menapeach, Mikishre Esbaotav Lemala. C'est-à-dire qu'il ne peut pas remplir toute sa main de grains de blé, mais il pourra que remplir ses phalanges. Et à ce moment-là, il souffle sur une partie, et après il les fait passer à l'autre main, et vice-versa. Marquois, là, Bemarava, en Eretz Israël, donc à l'ouest, ils ont rigolé sur cette halakha, parce qu'ils ont dit, en fait, on n'a pas besoin de faire un tellement grand chinouille, une tellement grande différence avec l'habitude, qui va de Meshané, puisqu'il le fait déjà, pas comme son habitude. Parce qu'en fait, on lui demande de faire passer d'une main à l'autre, il ne peut pas remplir ses deux mains pour souffler dessus et vanner ses grains de blé. Afilu Bekulayada Nami, il pourra même remplir toute sa main de grains de blé et souffler dessus. Et là, c'est pourquoi Amar a dit Rabbi Lazar, Menaper Biado Achat, Ubechol Koho. Il peut remplir sa main et souffler de toutes ses forces sur les grains de blé qui sont dans sa main, puis après il le fait passer à l'autre main, et etc. Et on finit le shiur de Betzada Fiud Gimel. Nous commençons le shiur de Betzada Fiud Dalet à la Mishnah. Nous allons traiter ici de l'interdiction de Tochen, qui veut dire moudre, ou piler, écraser du grain ou n'importe quel autre produit de la terre. Donc, puisque ce type de travail est situé dans la fabrication du pain avant le pressage, théoriquement, Yom Tov, ça devrait être interdit, comme nous avons expliqué au début de la Maseret. Là, nous verrons quelques dérogations. Bet Shamay Omrim disent Tavlin Nidochin Bemador Shel Etz. Des épices peuvent être pilées par le moyen d'un pilon de bois, donc pas d'une manière normale. En général, on utilise un pilon de pierre ou de métal. Vehamelach Bepar. Et le sel devra être pilé en employant à la place du mortier une cruche. Donc c'est une manière inhabituelle de piler du sel. Ou Bet Saparou. Deuxième possibilité de faire un changement, c'est d'employer à la place du pilon une louche de bois. Ou Bet Hillel Omrim disent Tavlin Inudochim Kedarkan Bemador Shel Even. Des épices pourront être pilées habituellement avec un pilon de pierre. Vehamelach Bemador Shel Etz. Par contre, le sel devra être pilé avec un pilon de bois pour ne pas le faire d'une manière habituelle. L'Agmara expliquera. Alors l'Agmara explique, de Kul Alma Mihat, on voit donc que tout le monde, soit Bet Shamay, soit Bet Hillel, sont d'accord sur un point que Melach Baya Shinui, que pour piler du sel, il faut un changement, on ne peut pas le faire de la manière habituelle. Il est à noter ici que quand on écrase quelque chose d'une manière inhabituelle, donc ce n'est plus une interdiction minatora, les Chachamim n'ont pas interdit à cause de la joie de Yom Tov. En tout cas, l'Agmara demande, Maitama, pourquoi est-ce que pour le sel, il faut l'écraser d'une manière inhabituelle, plus que pour les autres épices. L'Agmara répond, il y a une discussion entre Rav Huna et Rav Chisda. Chadamar, kolak derot kulan tsrichot melach. En fait, tous les plats, toutes les casseroles ont besoin de sel. Donc en fait, il aurait dû prévoir à l'avance, avant Yom Tov, d'écraser du sel pour ce qu'il a besoin, pour les plats qu'il a besoin. Ve'en kolak derot tsrichot tavlin, par contre, pas tous les plats n'ont besoin d'épices, ou pas toutes les sortes d'épices ne conviennent pour tous les plats, ce qui fait qu'il est difficile de prévoir à l'avance quelle sorte d'épices il aura besoin. C'est pourquoi ce qui était prévisible avant Yom Tov, donc c'est pourquoi on le pénalise, par exemple pour le sel, et donc c'est pourquoi il doit le faire avec d'une manière inhabituelle, soit selon Bet Shamay, soit selon Bet Hillel. Par contre, pour les épices, il reste une machloket entre Bet Shamay et Bet Hillel. Bechad Amar, le deuxième avis dit, Kol hatavlin meshigim tamar. Tous les épices, si on les écrase avant Yom Tov, ils perdent un peu leur goût et leur force. C'est pourquoi on lui permet d'écraser les épices pendant Yom Tov, selon l'avis de Bet Hillel, sans aucun changement. Ou Melach, ena mesiga tama. Par contre, le sel ne perd pas son goût, donc il aurait dû prévoir de le faire avant Yom Tov. S'il ne l'a pas fait, il devra le faire donc avec un changement. On voit donc ici que la raison pour laquelle on a le droit d'écraser les épices pendant Yom Tov, c'est parce qu'en fait, si on le fait, ou bien parce qu'on ne peut pas les prévoir la veille, ou bien parce qu'ils perdent de leur goût. Et c'est pourquoi, donc, exceptionnellement, l'interdiction de Tochen a été permise pendant Yom Tov. Mai Benayou, quelle différence y a-t-il entre les deux raisons? Puisque finalement, cela revient au même que pour les épices, on a plus le droit que pour le sel. L'Agma répond, Ika Benayou. Il y a quand même une différence entre la première raison et la deuxième raison. Par exemple, dans le cas où Diada Maïk Diraba et Levi Choulet, dans le cas où il savait déjà quel plat il allait cuire. Alors, selon la première raison qui disait qu'il était difficile de prévoir quelles épices il aurait besoin, là, puisqu'il a déjà prévu les plats qu'il va cuire, il sait aussi donc d'avance quelles épices il aura besoin. Donc, théoriquement, dans un tel cas, on lui dira d'écraser l'épice avec un changement. Inami Bemorika, deuxième différence, dans le cas d'un épice qui s'appelle le curcuma, où là, c'est un épice qui ne perd pas beaucoup de son goût. Donc, selon la première raison, puisqu'il était difficile de prévoir quel plat il fera, il aura le droit d'écraser le curcuma sans changement. Par contre, selon la deuxième raison qui dit qu'on a le droit d'écraser que les épices qui perdent leur goût, là, le curcuma ne perd pas vraiment son goût et donc il devra le faire avec un changement. Et maintenant, on continue. Amar Adi Ravi Uda Amar Shmuel, Kol Hanidochim, toutes les choses qui doivent être écrasées, donc tous les épices, Nidochim Kedarkam, peuvent être écrasées habituellement en employant un mortier et un pilon normal, Vafilu Melach et même le sel. La Gemara demande, Veha Amart Melach Baishinui, voici que nous avons vu plus haut, soit selon l'avis de Beit Shammai, soit selon l'avis de Beit Hillel, pour écraser le sel, il faut le faire avec un changement. Donc pourquoi est-ce que Ravi Uda discute, comment est-ce qu'il peut discuter avec eux et dire que pour écraser le sel, on n'a pas besoin de changement? La Gemara répond, Huda Amar Kaitana, fait Ravi Uda Amar Shmuel, pense comme l'auteur de la Breita qui suit, de Tania, parce que nous voyons dans une Breita. Amar a dit, Rabbi Meir, l'onech le coup Beit Shammai ou Beit Hillel, il n'y a pas de discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, alani dochin, chez nidochin kedakam, à propos de tous les épices. Donc on peut les écraser d'une manière normale, ou melachimahem, en même temps que le sel. C'est-à-dire on peut écraser en même temps que les épices, on peut aussi écraser du sel. L'onech le coup, elle a le docha bifnatma, la discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, n'est qu'à propos de savoir si le sel peut être écrasé tout seul, d'une manière normale. Chez Beit Shammai, Omrim disent Melach, Bepach ou Beit Haparur. Pour écraser le sel, il faudra faire un de ces deux changements, soit à la place du mortier employer une cruche d'argile, soit à la place du pilon employer une louche de bois. Deuxième changement qu'il faudra faire, Litzli, on ne pourra pas faire une grande quantité, il faudra faire juste une quantité suffisante pour saler de la viande qu'on veut faire rôtir ou griller sur le feu. Aval l'olig d'eram, il ne pourra pas écraser du sel pour une casserole. En d'autres termes, on n'aura pas le droit d'écraser une grosse quantité de sel qu'on a besoin pour un plat. Ou Beit Hillel Omrim disent Bechol davar, on peut écraser le sel avec toute chose. La Gemara demande Bechol davar salkadatar, est-il possible de dire qu'on peut écraser le sel avec toute chose, même avec quelque chose de mouktzé, par exemple une pierre? Et là, Emma, le Choldava. Il faudra lire dans les paroles de Beit Hillel. On peut écraser le sel pour toute chose, c'est-à-dire non seulement une petite quantité pour le rôti, même on pourra même écraser une grosse quantité pour la casserole. Il est évident que puisque, comme l'a introduit Rabbi Meir, leur sujet de discussion n'était pas seulement à propos de la quantité de sel qu'on a le droit d'écraser, mais aussi à propos de la manière comment on peut écraser le sel, donc nous comprendrons aussi, dans l'avis de Beit Hillel, qu'on aura le droit d'écraser le sel normalement, sans aucun chinou. C'est pourquoi Rabbi Uda Amar Shmuel, qui a fixé l'alakha comme Beit Hillel, disait qu'on peut écraser tous les épices, le sel compris, d'une manière normale, sans chinou. La Gemara continue. Amar le a dit Rav Acha Bar Dela le Bré à son fils, Kidaychat, quand tu veux écraser du sel, atzle atzouye, penche le mortier, vedor et écrase de cette manière. C'est aussi considéré comme un petit chinoui, mais cela suffit. En fait, il a voulu l'enseigner de ne pas écraser le sel entièrement d'une manière normale. Rav Shechet, Shama Kal Bukhna. Rav Shechet, qui était aveugle, a entendu pendant Yom Tov le bruit d'un pilon qui tapait dans le mortier. Il a dit à ce sujet, Hai Lav Migave de Betaïhu, ce bruit ne provient pas de ma maison. Parce qu'en fait, moi j'avais interdit d'écraser du sel sans pencher le mortier. La Gemara demande, Vidil Ma'atzlouye Atzle. Peut-être en fait que même s'il a entendu le bruit d'un mortier, d'un pilon, mais en fait peut-être qu'ils avaient penché le mortier. L'Agma répond, Deshamé, Dehavat Salil Kale, puisqu'en fait, comme nous l'avons dit qu'il était aveugle, il avait son ouïe très développée, il avait entendu que le son qui provenait de ce mortier est très clair et non pas sourd. Si le mortier avait été penché, le bruit aurait été plus sourd. L'Agma demande, Vedilma Tavin Habu, Peut-être qu'en fait, il s'agissait d'épices, et c'est pourquoi il n'avait même pas besoin de pencher le mortier. L'agma répond, Tavlin nevuche manvar kalayu. Le bruit que font les épices quand on les écrase, en fait, on entend le craquement des graines en question. Alors là, on n'entendait pas de craquement, donc c'est pourquoi il avait compris qu'il s'agissait de celles dont on n'avait pas penché le mortier. C'est pourquoi il était sûr que ça ne provenait pas de sa maison. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. En osin tisni, on ne pourra pas faire écraser du blé de manière à les, dans un mortier de manière à les couper en quatre. Il faisait comme ça un plat. Ven kochibe marteshet, on ne pourra pas du tout écraser dans un mortier. La Gemara demande, Tarté, finalement nous apprenons deux choses qui ne vont pas ensemble, parce que si on n'a pas du tout le droit d'employer le mortier pour écraser du blé, alors plus forte raison qu'on n'a pas le droit d'employer le mortier pour écraser du blé en les coupant en quatre, même en deux ou en trois aussi, on n'aura pas le droit de les écraser. La Gemara répond, Hachikama. C'est ainsi que la Braïta voulait dire. Matam enosim tisni. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire du tisni, donc ils sont des grains de blé coupés en quatre? Les fiches en kochim marteshet. Parce qu'on n'a pas le droit d'employer, d'écraser du blé dans un pilon, dans un mortier. La Gemara demande, velema en kochim marteshet. Alors la Braïta n'avait qu'à dire clairement, on n'a pas le droit d'écraser dans un mortier du blé. La Gemara répond, itanen kochim marteshet. Si la Braïta avait écrit clairement qu'on n'a pas le droit d'écraser du blé dans un mortier, Ravamina aurait pu croire, Hanemile Bemarteshet Gdola. On aurait dit que, en fait, quand la Braïta interdit, il ne s'agit que d'un grand mortier où habituellement on écrase le blé. Aval Bemarteshet Ktana, mais on aura le droit d'écraser du blé dans un petit mortier, habituellement utilisé pour écraser les épices, parce que là ce sera considéré comme un chinouï. Alors Emma Shapir Dami, j'aurais pu croire que c'est bien, on a le droit de le faire Yom Tov. Kamash Malan, c'est pourquoi la Braïta nous enseigne qu'en fait, de cette manière, qu'on n'a pas le droit d'employer le mortier pour écraser le blé, d'aucune manière, soit le grand mortier, soit le petit mortier. La Gemara demande, Vatania, voici que nous voyons dans une braïta, En kochim bemarteshet gdola, on n'a pas le droit d'écraser du blé dans un grand mortier qui sert habituellement pour le blé, aval kochim bemarteshet ktana, mais on pourra écraser le blé dans un petit mortier, ce sera déjà considéré un chinouï. La Gemara répond, Amar Adi Abaye. Kitania nami matnita, quand est-ce que la braïta nous enseignait qu'on n'a pas le droit d'employer le mortier, Marteshet Gdola Tanya. La Braïta nous parle du grand mortier. Donc en fait, la Braïta nous enseigne d'une part que le grand mortier ne pourra pas être utilisé d'aucune manière, ni pour écraser le blé pour le couper, les grains de blé pour les couper, ni en deux, ni en trois, ni en quatre. D'autre part, la Braïta nous enseigne qu'on ne pourra pas fabriquer des grains de blé coupés en quatre, et cela même dans le petit mortier, parce que c'est un effort supplémentaire, et donc les Chachamim l'ont interdit pendant Yom Tov. Donc la première partie de la Braïta qui parle de concasser les grains de blé en quatre, il s'agit même du petit mortier. Et la fin de la Braïta, il s'agit du grand mortier. Nous tournons la page à Dafid Dalet Amoudbet. Rava Amar.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Dafid Dalet Amoudbet. Rava Amar, Rava répond, propose une deuxième réponse pour cette contradiction. La kasha, en fait, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Toujours. Halan, la deuxième braïta qui permet d'utiliser le petit mortier, il s'agit de nous, c'est-à-dire des gens habitant en Babel, qui n'avaient pas d'esclaves, et donc il n'y avait pas à craindre qu'ils viennent à négliger les lois de Yom Tov et faire des choses d'une manière interdite. Et puis après dire que en fait ils l'ont fait d'une manière permise. C'est pourquoi on n'a pas le droit d'employer le grand mortier, mais le petit mortier sera permis. Vehalehu. Par contre, la première braïta où nous voyons que même le petit mortier est interdit, il s'agit d'Eret Israël où les gens avaient des esclaves et si on permettait d'employer le mortier, ils serviraient du blé concassé et diraient qu'ils employaient le petit mortier, mais en fait ils auraient très bien employé aussi le grand mortier. C'est pourquoi, dans le cas où il y a des esclaves, les Chachamim interdisent entièrement d'employer le mortier. Rav Papi, Ikla le Bei Mar Shmuel, est arrivé en visite pendant Yom Tov à la maison de Mar Shmuel. Aitele Daïsa, il lui a apporté un plat à base de blé concassé. Velo Achal, il n'a pas voulu le manger. La Gemara demande, Vedilma Be Marteshet Ktana Avdua. Peut-être, pourquoi il n'a pas voulu manger ce blé? Peut-être qu'il a été écrasé dans un petit mortier. La Gemara répond, de chazier, de avad aektfe. Il a vu qu'il était bien finement écrasé. Il a donc compris que ça c'était impossible de le faire dans un petit mortier. Il avait été fait dans un grand mortier. La Gemara demande, dis-moi, mettement l'avdoua. Peut-être qu'ils l'ont fait avant Yom Tov. Donc en fait, il n'y a aucune raison de l'interdire. La Gemara répond, de chazier, de avad kalif tahare. Il a vu que l'endroit de la coupe était net et brillant, ce qui prouvait que ces grains de blé avaient été fraîchement concassés. Vibaitema, et si tu trouves à redire sur cette réponse, je te dirai une deuxième réponse. Shani ben Marshmuel, la maison de Marshmuel est différente, et c'est pourquoi Rav Papi a voulu interdire, ou n'a pas voulu manger les grains de blé concassés. Vikapritut et Abde, parce que là, il avait des esclaves qui négligeaient la halakhot du Yom Tov, donc c'est pourquoi il n'a pas voulu manger du tout des grains de blé concassés. Nouvelle Mishnah. Haborer kitniot be Yom Tov, celui qui veut trier des légumes secs pendant Yom Tov. Bet Shammai Omrim disent Borer ochel ve ochel, il devra sortir la nourriture des déchets et pour aller manger comme ça, mais il ne pourra pas le trier d'une manière normale. Ou Bet Hillel Omrim disent Borer kedarko becheko, il peut trier habituellement ses légumes secs dans les pans de son habit. Bekanon, ou bien dans une espèce d'entonnoir qui ne laisse passer que les grains. Ou Bet Amrouy, ou bien dans un plat. Avallo betavla, mais par contre, il ne pourra pas trier ses légumes secs betavla dans un grand plat qui sert habituellement pour faire des grosses quantités. Velo benapa, pas par le moyen d'un tamis, espèce de grosse passoire. Velo bekvara, c'est aussi une sorte de passoire. Rabban Gamliel Omer dit Af madiach vecholé, il peut même rincer les légumes secs dans un seau de manière à séparer ainsi les déchets de la nourriture. Tania, la Gemara dit, nous avons enseigné dans une braïta, Amar Adi Rabban Gamliel. Bamed Varim Amourim, dans quel cas on a vu qu'il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'on a le droit de. Est-ce qu'on prend la nourriture, ou est-ce qu'on peut même prendre le déchet et le jeter? Que Shea Ochel, Merouba l'absolet. Dans le cas où il y a la nourriture est plus abondante que les déchets, à ce moment-là, le problème est de savoir, est-ce qu'on prendra ce qui est facile, ou ce qui est la majorité? Aval psolet meruba la ochel, mais si les déchets sont plus abondants que la nourriture, divrei akol notelet a ochel ou maniachet absolet. Tous les avis, même Bet Hillel seront d'accord qu'on ne pourra prendre que la nourriture et on devra laisser les déchets, on ne pourra pas faire le contraire. Parce que c'est ça un effort inutile de jeter le déchet. La Gemara demande psolet meruba la ochel, dans le cas où les déchets sont plus abondants par rapport à la nourriture, mi kaman deshare, est-ce que quelqu'un pourra permettre de trier cette nourriture, puisque les déchets sont majoritaires, on considérera ce tout comme mukte. La Gemara répond lotzricha denafish betircha, il s'agit pas dans un cas où les déchets sont majoritaires, mais il est beaucoup plus difficile de les enlever. Vezoutar Beshurim, par contre, il y a une petite quantité. Par exemple, il s'agit du sable mêlé à des grains de légumes secs. Il sera plus facile d'enlever la nourriture que d'enlever le sable. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabban Gamliel, Omer, Af Madiach Vecholé. Rabban Gamliel dit on pourra même rincer ses légumes secs dans un seau de manière à séparer les déchets de la nourriture. Tania, il a été enseigné dans une braïta. Amar a dit Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. Kach haya min hagan shel bet Rabban Gamliel. Ils avaient ainsi l'habitude de faire dans la maison de Rabban Gamliel. Shayu mevi'im dli male adashim. Ils avaient l'habitude d'amener un seau plein de lentilles. On metzifim alav ma'im et le rincer ou remplissait le seau d'eau. Penimsa ochel le mata ou psolet le mala. Il se trouve ainsi donc que la nourriture reste en bas et le déchet flottait en haut. Et c'est comme ça qu'il séparait le bon du mauvais. Et puis à ce moment-là, jeter les déchets et pouvait consommer les lentilles. La Gemara demande, Vatania, voici que nous voyons dans une braïta Ifra, le contraire, où la braïta dit que quand il rinçait les lentilles avec de l'eau, il se trouvait que la nourriture était en haut et les déchets étaient en bas. La Gemara répond, la kasha. Il n'y a pas de contradiction. Ces deux braïtotes parlent chacune d'une situation différente. Ha Beafra, la braïta qui nous parle de déchets qui se retrouvent en bas du seau parle en fait de terre, donc il s'agit de lentilles qui étaient salies par de la terre. En les rinçant, la terre se retrouve en bas et les lentilles étaient plus hautes. Habegile, par contre, la première braïta, nous avons vu que les déchets flottaient. Il s'agit ici de paille ou de déchets flottants. À ce moment-là, quand tu rinçais les lentilles, les déchets flottaient. Nouvelle Mishnah. Bet Shammai Omrim disent En Meshalchin Beyom Tov El Amanot. On ne peut pas envoyer, on peut envoyer de cadeaux à son ami pendant Yom Tov que des plats préparés qui ne peuvent être consommés qu'aujourd'hui. Par contre, des choses qui pouvaient être gardées pour le lendemain, on n'a pas le droit. C'est interdit à cause de. Parce que ça peut ressembler à du commerce. Bet Hillel Omrim disent Meshalchin, on peut envoyer Behema, Chaya Ve'ov, des animaux, des bêtes sauvages ou des oiseaux, Ben Chaim Ben Shrutim, soit vivant, soit après avoir fait la Shrita, ou bien Meshalchin, on peut encore envoyer Yenot, Shmanim ou Slatot, Vekitniot, on peut envoyer aussi du vin, de l'huile, de la fine farine ou des légumes secs, Avalotua, par contre, des céréales, on ne pourra pas envoyer parce qu'on ne peut rien faire avec pendant Yom Tov. Le Rabbi Shimon Matir Bitfoa permet même d'envoyer des céréales. La Gemara expliquera pourquoi. Alors, la Gemara explique que selon l'avis de Bet Hillel, donc on peut envoyer n'importe quoi comme cadeau qui peut être utilisé pendant Yom Tov. Tane a enseigné Rabbi Riel, ou Bilvad Shulei Asenushura, à condition de ne pas en faire un défilé. Et cela parce que les gens pourraient soupçonner le fait de voir des gens porter, un défilé de gens porter des choses dans la rue, penser qu'en fait, ces choses sont emmenées pour être vendues dans le marché. Tana, il a été enseigné dans une breita, en shura pruta mishlosha ben adam, n'est pas considéré comme un défilé, moins de 3 personnes. C'est-à-dire, si on envoie au moins 3 personnes avec le même cadeau, ce sera considéré comme un défilé, même selon Bet Hillel, on n'aura pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Ba'e a posé cette question au Ravashi. Tlata gavre ou tlata mine. Si une personne va envoyer 3 personnes, donc portant des cadeaux, mais chacune porte une espèce différente, une sorte différente. Mai, est-ce que c'est considéré comme un défilé et ce sera interdit? Ou bien puisque chacune porte une sorte différente, alors ce ne sera pas considéré comme un défilé et selon Bet Hillel, on aura le droit de les envoyer. La Gemara dit Teku, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu Hanavi répondra. Rabbi Shimon Matir Bitua, la Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que Rabbi Shimon permet même d'envoyer des céréales. Tanya, il a été enseigné dans une breita. Rabbi Shimon Matir Bitua permet d'envoyer des céréales. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi, théoriquement, on peut aussi les employer pendant Yom Tov. Par exemple, que Gon Chitin, par exemple le blé, la sotte même l'oudiot pour en faire un plat à base de blé, de grains de blé. Seorin, l'orge peut être employé, l'iten l'ifne b'em tov pour les donner à manger à sa bête. Adashim, les lentilles, la sotte mehem resissim, on peut les employer pour en faire un plat à base de lentilles. Nous avons fini le shiur de Betsada Fidalet. Commençons le shiur de Betsada Fidalet. Commençons d'Afidalet Amud Bet à la dernière Mishnah en bas de la page. Meshalchin Kelim, on peut envoyer des habits pendant Yom Tov à un ami, Ben Tfurim, Ben Shenam Tfurim, soit si ces habits sont déjà cousus, soit s'ils ne sont pas encore cousus. La Gemara expliquera qu'est-ce qu'on peut en faire. Bafalpi Sheshbaim Kilaim, on peut même envoyer des habits où il y a un problème de mélange de lin et de laine, c'est ce qu'on appelle Shatnez. La Torah interdit de porter ce genre d'habits où les fibres sont composées d'un mélange de lin et de laine. La Gemara expliquera aussi qu'est-ce qu'on peut en faire. Vehen Letzorech HaMoed, à condition que ce soit des habits qu'on peut utiliser pendant Yom Tov. Aval Los Sandalam Sumar, mais on ne pourra pas envoyer une espèce de sandale cloutée. Donc c'est une sandale avec des espèces de crampons qu'on n'a pas le droit de porter pendant Yom Tov. La Gemara expliquera pourquoi. Velo min al shenotafur, et on ne pourra pas non plus envoyer une chaussure qui n'est pas encore cousue parce qu'on ne peut pas la porter. Rabbi Yehuda Omer dit af lo min al lavan, on ne peut même pas encore envoyer une chaussure blanche, c'est-à-dire qui n'est pas encore été teintée, bipnei shetzarech uman, parce qu'on a encore besoin d'un artisan pour teindre ses chaussures. Zeaklal, voici la règle générale. Kol shenotim bo biyom tov, toute chose dont on peut se servir, dont on peut tirer profit pendant Yom Tov, meshalchim oto, on pourra l'envoyer à son ami pendant Yom Tov, cela pour la joie de Yom Tov. La Gemara demande, bishlama tfurim chazul le malbush, on comprend bien qu'on puisse envoyer des habits qui sont déjà cousus, parce qu'on peut les porter. Shem tfurim nami chazul le chazouye, même des habits qui ne sont pas été cousus, donc c'est des morceaux de tissu, on peut les employer pour se couvrir avec. Et la kilaïm, le maïchazou, par contre, des habits de kilaïm, donc de chatnez, où il y a un mélange de lin et de laine, qu'est-ce qu'on peut en faire pendant Yom Tov? Vichit et maï, si tu veux me répondre, chazou, le mimar, tout est. on peut les employer pour les, on peut les plier et les mettre sous soi, c'est-à-dire comme, comme coussin ou comme matelas. Là, on, là non plus, c'est pas vrai. Parce que Ve'atania, parce que nous voyons dans une braïta, lo ya'aleh alecha, le pasouk qui parle de l'interdiction de porter du sha'atnez, ne montra, on, un habit de sha'atnez, donc composé de l'un et de l'aile, ne montera pas sur toi. Comprends bien donc de ce pasouk que la Torah interdit de s'habiller d'un habit de l'un et de l'aile, aval ata yachol le'atzio tartecha, mais tu peux le mettre sous toi, comme matelas ou comme, comme coussin. Aval amru chachamim. Par contre, les chachamim ont dit, assur la sotken, on n'a pas le droit de faire comme ça. Shema tikarechlo nimal besaro. De peur qu'un fil provenant de, de cet habit se monte sur sa chair et ainsi le réchauffe. Si par exemple il s'agit de, d'habits avec des fibres, des fils épais. Ou bien même si nous disons, comme Rachid explique, qu'il s'agit d'un habit normal, puisque c'est un habit qui chauffe quand même, c'est-à-dire on s'en sert et on, le corps en tire profit. Alors, la seule raison pour laquelle la Torah a permis de l'utiliser, c'est parce qu'en fait, il ne monte pas sur la personne, il ne s'habille pas avec cet habit. Si, dans ce cas, même si une infime partie de cet habit monte sur lui, nous considérons comme s'il s'est habillé avec cet habit en question, et il a transgressé l'interdiction de sha'atnez. C'est pourquoi un habit de sha'atnez ne pourra même pas être employé en tant que matelas, ou comme coussin, de peur qu'une petite partie de cet habit monte sur lui et transgresse l'interdiction de sha'atnez. Donc finalement, un tissu de sha'atnez ne peut pas être employé pendant Yom Tov. Alors, pas du tout être employé. Alors à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de l'envoyer pendant Yom Tov? La Gemara demande, Vechitem ad mafsik mide bene ou bene. Et si tu veux me dire qu'en fait qu'il peut l'employer en mettant une séparation entre lui et ses habits, c'est-à-dire en employant un corps coussin, mais en le couvrant avec un tissu qui n'est pas sha'atnez. Là aussi, ce n'est pas vrai, parce que Veha Amar, parce qu'a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Amar Rabbi Yotzi ben Shaul, Amar Rebi, Mishum Kehala Kadisha de Yerushalayim. Tout cela, on a dit au nom de l'Assemblée Sainte de Yerushalayim. Afilo Esa Matsaot Zu Al-Gabezu. Même s'il y a 10 matelas ou couvertures, l'une sur l'autre, Vekila Mtartem, et en dessous de. Et tout en dessous, il y a un habit de Kilaïm. Donc en fait, sur cet habit de Sha'atnez, il y a encore 10 couches d'habits par-dessus. Asur Lishan Alehem n'aura pas le droit de dormir dessus, de se coucher dessus. Mishum Sheneemar Le'ale Alecha, parce que la Torah a dit qu'un habit de Sha'atnez ne pourra pas monter sur toi. Et les Chachamim ont interdit de mettre un habit de Sha'atnez sur lui, de peur que même une petite partie de cet habit monte sur lui. Ce décret inclut même le cas où il y a plusieurs couches d'habits qui séparent l'habit de sha'atnez et la personne. Donc finalement, on ne voit pas pourquoi qu'est-ce qu'un habit de sha'atnez peut, à quoi peut être employé un habit de sha'atnez pendant Yom Tov? La Gemara répond, et la bevilon. En fait, il s'agit d'un habit qu'on peut employer en tant que rideau. Là-dessus, la Gemara demande, là aussi ça ne va pas, parce que Veha Amaroula, voici que Oula a dit, mais pourquoi est-ce que les Chachamim ont dit que le rideau est impur, c'est-à-dire il peut recevoir l'impureté? Finalement, ce rideau qui est accroché au mur devait faire partie intégrale de la maison et donc ne veut pas recevoir la Touma. La Gemara répond, Mipne chez Hashamash mitramem kenegdo. Parce que des fois, quand l'intendant a froid, il s'enroule dans ce rideau et se chauffe ainsi. C'est pourquoi donc le rideau est considéré comme étant un habit, c'est pourquoi il est apte à recevoir la Touma. Si c'est comme ça, on ne pourra pas employer un habit de sha'atnez ou un tissu de sha'atnez comme rideau, parce qu'on l'utilise pour se réchauffer avec. Donc là aussi, cette réponse ne va pas. Nous passons à Daftet Vav Amud Alef et la Bekashim. Moi ici dans la Mishnah, il s'agit d'habits qui sont durs, donc qui ne réchauffent pas. Vechiha de Amar, comme qu'on a vu l'enseignement de ce qu'a dit Rav Huna Bered Rav Yehoshua, Hay Namta Gamda de Narash. C'est le feutre dur provenant de Narash, même s'il est composé de lin et de laine, Sharia, on a le droit de l'utiliser, par exemple, pour s'asseoir dessus. Pourquoi? Parce que comme il s'agit d'un habit dur, il n'y a pas de fibre qui peut se détacher, il n'y a pas et en plus, c'est un habit qui ne chauffe pas. Donc, il n'y a pas d'interdiction de Sha'atnez. Amar Adi Rafapa, Ardalin, une espèce de chausson où la semelle était en feutre. C'est aussi, il s'agit ici de feutre dur. Alors là aussi, Rafapa nous enseigne qu'à propos de cette espèce de chausson, El Bahemishum Kinaim, il n'y a pas d'interdiction de Kinaim, c'est-à-dire même si la semelle de ce chausson est composée de lin et de laine, on pourra quand même le mettre. Amar Adi Rava, Hanetzrare de Pshite, une bourse d'argent, El Bahemishum Kinaim, il n'y a pas d'interdiction de Kinaim, de Shahatnez. Puisque quand on met des pièces dedans, donc cette bourse devient dure, elle ne réchauffe pas. De Bizrane, Yeshbaim Kilaim. Par contre, une bourse contenant des grains ou des graines à semer, alors là-dessus, il y a une interdiction de Shahatnez, parce que comme cette bourse est molle, elle réchauffe aussi. Ravashi Amar dit, Echadzev Echadzen Baim Shum Kilaim. Soit une bourse d'argent, soit une bourse contenant des graines, il n'y a pas d'interdiction de Shahatnez si elle est composée de lin et de laine. Les filles Shender Chimum Bekar, parce que ce n'est pas l'habitude de se chauffer de cette manière, donc ce n'est pas considéré comme un habit, et la Torah ne l'interdit pas dans un tel cas. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Avaloa sandala mesuma ». On ne pourra pas par contre envoyer une sandale cloutée. La Gemara demande « Sandala mesuma maitamalo ». Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envoyer une sandale cloutée ayant des crampons? La Gemara répond « Mishum maase shehaya ». C'est à cause de l'histoire qu'il y a eu, comme c'est décrit dans Maseret Shabbat Daf Samer. À l'époque d'une invasion ennemie dans le pays d'Eretz Israël, les gens se réfugiaient dans les grottes. Donc, ces grottes étant dans les montagnes, les gens portaient des chaussures cloutées à crampons. Alors, une fois, les gens enfermés dans la grotte, entendant du bruit à l'extérieur, ils ont pensé que les ennemis étaient arrivés. Ils se sont bousculés les uns les autres et se sont écrasés avec ces chaussures. Et ainsi, comme ça, ils se sont tués l'un l'autre. À la suite de ces histoires, les Chachamim ont interdit de porter des chaussures cloutées, donc à crampons, pendant des moments de grand rassemblement, comme le Shabbat et le Yom Tov. Amar Adi Abaye, Sandalam Sumar, Asur le Naalo, les sandales à crampons, on n'a pas le droit de les porter le Shabbat ou le Yom Tov, Mutar le Taltelo, par contre, on a le droit de les porter, les transporter, ce n'est pas Mukhtse. Alors, Asur le Naalo, on n'a pas le droit de les porter. Mishuma Sechaya, à cause de l'histoire qu'il y a eu, comme nous venons de l'expliquer. Mutar le Taltelo, par contre, on a le droit de les transporter. Ces chaussures ne sont pas Mukhtsées. Mide Katane El Meshalchim, parce que dans notre Mishnah, nous voyons qu'on n'a pas le droit de les envoyer à un ami. Donc, Deis Al Kadata, Asur le Taltelo, si tu pensais que ces chaussures étaient Mukhtsées, on n'a même pas le droit de les transporter. Hashtar et Tultulo et Asur, si déjà on n'a pas le droit de les transporter, Meshalchim Ibaya, est-ce que la Mishnah a besoin de nous enseigner qu'on ne peut pas les envoyer en cadeau? Voici que si nous pensons qu'ils sont mouktés, on n'a même pas le droit de les transporter. On voit donc de là que ces chaussures ne sont pas mouktés, on peut les transporter. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Velo minal shenotafu ». On ne peut pas envoyer non plus des chaussures qui ne sont pas cousues. Pita. La Gemara demande, il est évident puisqu'on ne peut rien faire avec. La Gemara répond « Lonitrecha ». La Mishnah a besoin de nous enseigner un chidouche qu'on n'a pas le droit de les envoyer. « De afalgav denakit besike ». Même s'il s'agit de chaussures qui ne sont pas cousues, mais elles sont quand même retenues ensemble, c'est-à-dire la partie supérieure et la partie inférieure, avec des espèces de petits clous.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Yomi, quotidiennement en vidéo.